Réplique, la vie intellectuelle en France, état des lieux, avec Christophe Charles et André Perrin. En 1891, Anatole France s'interrogeait sur le pessimisme qu'il percevait chez ses contemporains. « Pourquoi sommes-nous tristes ?» demandait-il. Plus d'un siècle après, l'historien Christophe Charles et le professeur de sciences politiques Laurent Jean-Pierre remettent cette question à l'honneur dans la conclusion du grand ouvrage collectif qu'ils ont dirigé sur la vie intellectuelle en France. Il n'est pas besoin d'aller très loin, écrivent-ils, pour retrouver des interrogations similaires sur la dépression française. En invitant aujourd'hui Christophe Charles avec André Perrin, qui après avoir enseigné la philosophie a été inspecteur d'académie et qui publie « Scène de la vie intellectuelle en France », j'ai voulu en avoir le cœur net. Comment allons-nous, nous autres intellectuels? Sommes-nous déprimés? Sommes-nous unis par ce commun état d'âme? Est-ce la tristesse qui caractérise nos réflexions et qui imprègne nos échanges? Christophe Charles.
Alors effectivement, c'est un thème qui a été beaucoup utilisé ces dernières années. On a parlé de dépression française, on a même généralisé à l'ensemble des Français. Pourquoi les Français sont-ils plus pessimistes que l'ensemble des Européens quand on fait des sondages comparatifs? Et donc, évidemment, c'est un thème qui se prête à des débats, puisque la tristesse, évidemment, c'est un sentiment tout à fait à la fois simple à comprendre, mais en même temps, pourquoi? C'est ça la vraie question. Pourquoi serions-nous tristes? Pourquoi devrions-nous être tristes? Ne sommes-nous pas dans un pays où la liberté d'expression a quand même assez peu d'équivalent dans d'autres pays du monde? Ne sommes-nous pas dans un pays qui a encore un certain nombre de beaux restes au niveau de la civilisation, puisque c'est quand même un des pays les plus visités du monde? Et nous avons encore eu récemment un certain nombre de prix Nobel dans un certain nombre de disciplines, la littérature, la médecine et les sciences. Donc il y a quand même encore des raisons d'espérer, ou en tout cas, on pourrait encore penser que la France est un grand pays intellectuel. Mais je crois que la tristesse, elle vient surtout de l'époque. Hein, de l'époque, c'est-à-dire, nous avons eu cette fin des grands récits. La France se sentait à la tête de l'humanité au XIXe siècle. Elle voulait montrer le progrès aux autres et c'était quand même le discours dominant. On peut penser évidemment aux grandes envolées lyriques de Victor Hugo. On peut penser bien entendu à la mission civilisatrice que la Troisième République s'attribuait. Donc c'est vrai que par rapport à ce discours un peu triomphaliste, même les plus nationalistes de nos hommes politiques, même les plus cocardiers, n'oseraient pas, ou en tout cas auraient du mal à faire passer un discours aussi flamboyant. Donc il y a ce contexte. Il y a une deuxième chose, je crois, c'est un sentiment d'accablement, dans la mesure où, non pas la vie intellectuelle est pauvre, mais au contraire, elle est surabondante. Et quand on rentre dans une librairie, quand on écoute la radio, quand on se branche sur les réseaux sociaux, on est accablé d'une masse d'informations, d'une masse de nouveautés, d'une masse de livres, de titres, d'articles, qui tous nous font envie, finalement. On aurait envie de tout lire, de tout savoir, et en même temps, la vie est de plus en plus courte, non pas parce que l'espérance de vie s'est raccourcie, mais parce que notre temps est mangé, haché par de multiples activités parasites. Il faut écouter la radio, il faut regarder la télévision, il faut se brancher sur Internet, et tout ça, évidemment, ça prend du temps par rapport à des activités plus nobles que serait la lecture, l'écriture ou la réflexion. Donc je crois qu'il y a un peu ce goulot d'étranglement du temps qui crée un sentiment d'angoisse et du sentiment d'inachèvement. On n'a jamais assez le temps pour faire tout ce qu'il faudrait faire pour être à la hauteur de ce monde intellectuel surabondant. Voilà, c'est un petit peu ça le sens de notre conclusion. Alors, y a-t-il des remèdes à cela? Faut-il s'organiser autrement? Faut-il choisir avec des critères rigoureux pour éviter d'être envahi de choses inutiles? Moi, je pense qu'il y a tout cela à faire, mais c'est une sorte d'hygiène collective qui ne peut pas se décréter uniquement par un individu tout seul.
André Perrin, quel est votre sentiment? À vous.
Oui, alors pour répondre à la question que vous avez posée, celle de la tristesse, hein, sommes-nous tristes ou pas, et moi-même suis-je triste ou pas, je crois qu'il faut commencer par faire une distinction entre la vie intellectuelle et le débat intellectuel. Hein, parce que la ressemblance entre les titres des ouvrages qui nous valent d'être là, Christophe Charles et moi, ne doit pas dissimuler une dissemblance essentielle, hein, non seulement quant à l'ampleur du travail, qui est évidente, mais aussi quant à son objet. Je ne suis pas historien, je n'ai évidemment pas prétendu faire œuvre historique, et je ne parle pas. Évidemment pas de plus de 2 siècles de vie intellectuelle en France. Je parle du débat intellectuel sur une période qui est en gros celle des 10 ou 15 dernières années, et pas dans n'importe quel espace, pas dans l'espace ou dans les espaces savants. Je ne parle pas de ce qui se passe dans les laboratoires des universités ou du CNRS, ni dans les colloques ou les congrès ou les revues spécialisées, car sur ce point, je n'ai aucune raison de douter de la richesse de la vie intellectuelle. Et je partage entièrement ce qui vient d'être dit par Christophe Charles. Moi aussi, lorsque je suis dans une librairie, et j'y suis souvent, je suis désespéré en voyant l'étendue de ce que je n'ai pas lu et que je n'aurai jamais le temps de lire. Mon objet, c'est un autre espace, comme le signale d'ailleurs Jean-Claude Michéa dans sa préface, c'est l'espace médiatique, c'est le débat intellectuel dans l'espace médiatique, c'est-à-dire dans cet espace où des savants descendent de leur chair pour devenir des intellectuels, un petit peu au sens où Sartre disait que l'intellectuel c'est celui qui se mêle de ce qui ne le regarde pas, et espace dans lequel ils croisent d'autres intellectuels qui ne sont pas des savants, qui sont des journalistes, des éditorialistes, et donc dans un espace qui est celui qui est destiné au grand public. Et c'est là que j'aurais quelques raisons d'être triste, en effet, parce que le débat intellectuel ne s'y déroule pas de la manière qui me semble souhaitable, en tout cas qui semble souhaitable à quelqu'un qui a l'habitude de la réflexion et de la discussion philosophique. Si vous voulez qu'on essaye d'identifier un petit peu ce qui se passe, je crois que le débat intellectuel en France souffre de deux choses. Il souffre de deux intrusions qui constituent ce que l'on peut appeler, en termes pascaliens, deux sortes de confusion des ordres. Il y a d'une part l'intrusion de la morale dans le débat intellectuel et, deuxièmement, l'intrusion de la politique. Alors, l'intrusion de la politique, ça pose un premier problème, qui est celui des rapports de la science et de la politique, ou pour le dire à la façon de Max Weber, l'opposition du savant et du politique. Et l'intrusion de la morale dans le débat intellectuel, ça pose le problème de ce qu'on a pris l'habitude d'appeler le politiquement correct. Bon, je précise que cette expression, je ne l'utilise qu'avec parcimonie parce qu'elle est usée à force qu'on en a usé et abusé. Mais elle permet néanmoins d'identifier un problème important, hein, parce que le débat intellectuel, c'est avant tout une délibération en commun pour s'efforcer de s'éclairer mutuellement afin de découvrir la vérité.
Alors, est-ce que vous pouvez donner des exemples, un ou deux exemples, de ce que vous appelez la confusion des ordres? Alors, André Perrin.
Eh bien, il y a confusion des ordres, alors, donc dans le domaine, si vous voulez, lorsque la morale ou le moralisme, hein, pénètre le débat intellectuel, que se passe-t-il? on substitue à la seule question qui vaille dans un débat intellectuel, qui est celle de la distinction du vrai et du faux, on lui substitue la question du bien et du mal. La morale, en deux sens du terme moral, en deux acceptions. Hein, d'une part, une morale, de l'intention ou de la volonté, et d'autre part, une morale des conséquences.
Oui, mais j'ai dit deux exemples. C'est quand est-ce que c'est arrivé?
Alors, je vais vous les donner. Je termine juste sur ce point. Une morale de l'intention, lorsque précisément on s'interroge sur le mal qui a présidé à au discours que tient quelqu'un. Vous dites cela parce que vous êtes inspiré par telle passion, etc., par tel intérêt. Bon. Ou bien, du point de vue des conséquences. Ce que vous dites, en disant cela, vous allez faire le jeu de X ou Y. Et donc, on en arrive à cette idée que, même vrai, une idée, une proposition doit être tue, doit être dissimulée, si elle risque d'avoir telle ou telle conséquence. Alors, un exemple, écoutez, j'en donne un dans mon livre, parce qu'il me paraît quand même significatif, c'est l'exemple de ce qui s'est passé à Rotherham, dans le Yorkshire. Hein, pendant une quinzaine d'années, il y a eu 1400 jeunes filles âgées de 11 à 16 ans, qui ont été battus, qui ont été violés, sous la menace de la torture, bien souvent, sans que les autorités municipales et policières n'interviennent. Et bien qu'elles aient été informées de la chose par trois rapports de l'inspection des affaires sociales. Pour quelles raisons? De leur propre aveu, parce que ils craignaient qu'en identifiant l'origine ethnique des coupables, il craignait d'être accusé de racisme. Bon, alors là, si vous voulez, on arrive quand même à se poser une question. Qu'est-ce qui est le plus dangereux? Quelles sont les conséquences les plus néfastes? Est-ce que c'est l'impunité qui est assurée pendant 15 ans à des violeurs? Ou est-ce que c'est le risque de stigmatisation de la communauté à laquelle ils appartiennent?
D'accord, très bien. Christophe Charge, je vous laisse répondre en disant quand même que les livres ne portent pas sur le même sujet, mais se recoupent. Parce que il y a tout un chapitre dans le vôtre, dans celui que vous dirigez, Christophe Charles, consacré aux espaces publics, à la lutte croissante pour l'attention médiatique, et la question de la nature du débat intellectuel, évidemment, est au cœur aussi de votre propos, de votre enquête.
Oui, bien entendu, c'est un des fils directeurs d'ailleurs des deux volumes, puisque tout au long du livre, nous avons fait des arrêts sur images pour justement montrer les transformations de cet espace médiatique et comment ces transformations ont des effets sur justement la teneur des débats, la façon de les mener, la capacité ou non d'aller au fond des choses et aussi les interférences, comme vous venez de le dire, avec d'autres enjeux externes au monde intellectuel. Et effectivement, enfin, ce qu'on disait tout à l'heure sur la surabondance, je crois que les médias eux-mêmes en sont victimes, c'est-à-dire que toutes sortes de questions s'entrechoquent. Il suffit de prendre l'ouverture de tel ou tel journal télévisé ou radiophonique où, à la suite, on enchaîne des sujets extraordinairement différents, avec des transitions tout à fait approximatives, mais qui, effectivement, dans l'esprit des gens, font que des choses très lointaines se retrouvent côte à côte. Hein, un fait divers comme celui que vous racontez, un autre fait divers qui aura lieu dans un autre pays, et du coup, ça fait un effet de brouillage pour les comparaisons, pour les mises en perspective et pour resituer les choses dans chacun des contextes. Donc ça rend le public évidemment perplexe, et souvent les commentateurs eux-mêmes n'ont pas le temps d'approfondir les questions, de se renseigner pour vraiment mettre les choses en perspective, et du coup on utilise un peu des slogans, enfin ce que vous avez appelé politiquement correct, ou des expressions toutes faites, ou des mots valises qui vont qualifier des choses qui en réalité n'ont rien à voir les unes avec les autres et qui créent justement cette confusion du débat intellectuel. Hein, j'ai été très frappé personnellement, je suis allé brièvement à Londres au mois de janvier pour présenter justement ce livre. Le ministère des Affaires étrangères organisait ce qu'on appelle la nuit des idées, et donc ils avaient organisé une session de cela à Londres, et et l'obsession de tous les gens qui participaient à ces débats de la nuit des idées à Londres, c'était ce fameux notion de vérité, vérité alternative. C'était on était tous à débattre de ça, alors que c'était un slogan qui était sorti des débats autour de ce qui se passe aux États-Unis, parce que donc la présidence américaine aujourd'hui refuse certaines vérités qui sont transmises par les médias, etc. Donc on voyait bien comment on était en théorie dans un débat intellectuel, et en fait l'agenda était dirigé par quelque chose de tout à fait conjoncturel, lié en plus à un contexte américain qui n'a pas grand chose à voir ni avec le contexte anglais ni avec le contexte français, et il y avait une sorte d'imposition d'un schéma de pensée qui nous obligeait, on était obligé de sommer en quelque sorte de réagir par rapport à ça. Enfin, c'était assez absurde. Donc cette incapacité de mettre à distance les choses, de pouvoir les contrôler, les mettre en perspective, parce que la médiatisation et l'urgence médiatique impose ce calendrier. Donc ça, je crois que c'est effectivement une des spécificités de notre époque, cette notion d'urgence et de manque de temps qui rend cette confusion inévitable.
Alors moi, je pense qu'il y a aussi un autre phénomène. Je vous interrogeais sur la nature du sentiment dominant aujourd'hui en France, alors qu'on puisse éprouver de manière générale une certaine tristesse devant l'état des choses, ou peut-être aussi la marginalisation relative de la France dans le monde. Je crois que ce qui caractérise la vie intellectuelle aujourd'hui, et ça ne concerne pas seulement l'espace médiatique, c'est la crispation, le raidissement, et le sentiment que moi je mettrais en valeur, c'est hélas la haine. Je trouve que la haine est revenue dans le monde intellectuel, et ça a à voir avec l'exemple que vous donniez, André Perrin, parce que notre trésor moral le plus cher, c'est l'antiracisme, fondement des démocraties. La démocratie, dit Tocqueville, c'est la généralisation du sentiment du semblable. Et il y a eu une expérience historique que nous avons tous en tête, bien sûr, le nazisme, où on a voulu extirper le sentiment du semblable du cœur des hommes et le remplacer par la hiérarchie des races. D'où l'importance de l'antiracisme. Mais ce que je vois aujourd'hui, c'est l'extension délirante du domaine du racisme. On est raciste, on peut être accusé de racisme quand on est favorable à l'interdiction de la burqa dans l'espace public, à l'interdiction des signes religieux ostensibles dans les écoles. Le sionisme est couramment désigné comme une forme de racisme. La dénonciation de l'antisémitisme dans les familles arabes a valu à Georges Bensoussan d'être traduit devant un tribunal. Il vient d'être relaxé. Mais ça a été une expérience pénible. Et dans Télérama, j'ai lu aujourd'hui que l'afroféminisme dénonçait le racisme du féminisme dominant, universaliste et blanc. Et Télérama n'a pas grand-chose à y redire signale, sans s'émouvoir autrement, l'existence en août 2016 du camp d'été décolonial, 4 jours de débats non mixtes, autrement dit fermés aux blancs. Donc tout cela quand même crée un climat extrêmement dur, comme si surgissait devant nous un type de conflictualité à laquelle rien ne nous avait préparé, et certainement pas la lutte des classes, conflictualité des cultures, justement, et que, pris de panique devant ce phénomène, on ne savait pas comment le penser, et on avait tendance, pour ne pas tomber dans le racisme et la stigmatisation, à justement stigmatiser ceux qui essayent d'y réfléchir. Donc je dis les choses, si vous voulez, très sommairement, mais je suis frappé, pour en être un peu victime moi-même, par ce climat de haine qui sévit aujourd'hui dans le monde intellectuel, et ce n'était pas le cas, disons, à la fin des années, dans les années 80, dans les années 90 du XXe siècle. André Perrin.
Oui, alors, est-ce que c'est nouveau? Bon, la question m'a été posée à plusieurs reprises. Peut-être parce que j'avais donné comme sous-titre à mon avant-propos « L'art perdu du débat », À vrai dire, lorsque je l'ai choisi, je ne me suis pas tellement posé le problème chronologique, j'aurais pu dire l'art absent ou manquant. Bon, dans la mesure, si vous voulez, où il y a des choses qui ne sont pas nouvelles. Bon, ce qui n'est pas nouveau, si vous voulez, c'est bon, d'abord la violence du débat. Il est certain que si on remonte, par exemple, à la fin du 19e, au début du 20e, si l'on pense à Rochefort, à Léon Daudet, bon, on a à Drummond, et puis dans les années 30, à Rebatté, etc. Dans les années 50, aux épithètes du style hyène dactylographe adressées à Sartre ou hyperlubrique, enfin je ne sais plus.
Bon. Et à la violence dont Sartre lui-même pouvait faire preuve,
oui,
à l'égard de ses adversaires.
Je vais y revenir tout de suite, vous allez voir. Donc c'est vrai, cette violence, elle existait. Mais il y a quand même des choses qui... Alors, de même, si vous voulez, le procès d'intention, ce que j'évoquais tout à l'heure, bon, là aussi, l'importance qu'a eu le marxisme entre 1945 et 1975, disons, a créé des habitudes mentales qui consistaient à soupçonner celui qui avance une thèse de ne la défendre que en fonction de ses intérêts de classe. Donc, tout cela n'est pas nouveau. Il y a quand même une chose qui m'est apparue nouvelle depuis une quinzaine d'années. Ce sont les pétitions, ce sont certaines pétitions. Les intellectuels ont, depuis qu'ils existent en tout cas, au sens que nous donnons, c'est-à-dire depuis l'affaire Dreyfus, si on prend ça comme point de départ, ont bien sûr pétitionné. Mais ils ont pétitionné essentiellement pour défendre des innocents, comme le capitaine Dreyfus. Ou bien des anarchistes, des libertaires qui étaient comme Lucien Descaves, comme Jean Grave, etc. Ou bien des gens qui n'étaient peut-être pas innocents, mais de l'innocence desquels ils étaient convaincus, comme Sacco et Vanzetti ou les époux Rosenberg. Bon, mais ils n'ont pas, à ma connaissance, mais l'historien va peut-être me démentir sur ce point, ils n'ont pas signé de pétition consistant à demander la destitution de quelqu'un, qu'on le chasse de son poste, de son poste à la radio, de son poste de professeur, etc. Sartre, que vous évoquiez, certes, a été extrêmement violent. Il lui est arrivé une fois de dire que Raymond Aron était indigne d'enseigner, Ce n'est pas la chose la plus subtile qu'il ait dite, mais à ma connaissance, il n'a jamais signé de pétition pour demander que Sartre fût chassé de la Sorbonne ou du Collège de France. Fût chassé de la Sorbonne ou du Collège de France. En revanche, nous avons eu, par exemple, dans l'affaire Guggenheim...
Oui, ça, cette pétition... affaire Guggenheim, elle est un peu le fil rouge de votre livre, André Perrin. Alors, Sylvain Guggenheim a un livre, Aristote au Mont Saint-Michel, dans lequel il conteste l'idée, au demeurant assez récente, que l'Europe, la pensée occidentale, doit sa connaissance des sources grecques quasi exclusivement à l'islam. Il pense que tel n'est pas le cas, il réévalue les filières latines et byzantines. Et en effet, son livre a été très mal accueilli, et donc vous parlez, vous allez nous en parler, de la pétition de 56 spécialistes d'histoire et de philosophie médiévale qui l'ont très vivement dénoncé.
Oui. Alors, d'abord, l'affaire Guggenheim n'est pas le fil rouge de mon livre, c'en est le point de départ.
Non, mais elle revient souvent, fil rouge, excusez-moi d'avoir dit ça, mais enfin, elle est très présente. C'est un des leitmotifs, c'est le point de départ, et c'est un des leitmotifs.
Dans l'avant-propos, et puis il y a le premier texte, parce que c'est le premier que j'ai écrit, voilà. Et parce que, disons, j'indique dans mon avant-propos que tous les éléments qui, à mon sens, empoisonnent le débat en France se trouvaient regroupés dans cette affaire. Voilà, c'est pourquoi elle avait un caractère exemplaire. Alors, deuxièmement, la pétition dont je voulais parler, ce n'était pas celle des 56, c'était celle de l'École normale supérieure de Lyon, qui me paraît beaucoup plus grave, si vous voulez, parce que c'est cette pétition qui demandait à la direction de l'école, où Sylvain Guggenheim, professeur, une enquête approfondie contre Sylvain Guggenheim. Donc là, véritablement, on franchit un seuil, si vous voulez, quand il y a une sorte de tentative d'aller vers une interdiction professionnelle. Bon, et puis, alors il y a eu d'autres exemples qui concernaient, ben, vous êtes bien placé pour le savoir, puisque vous avez, il y a eu une pétition à une certaine époque qui a été dirigée, adressée à David Kessler pour demander que vous fussiez chassé de cette émission. Il y a eu des pétitions alors contre d'autres, contre Richard Millet par exemple, qui a abouti à son exclusion du comité de lecture de Gallimard. Il y a eu Zemmour, etc. Bon, voilà. Donc, il me semble quand même que là, on se trouve devant un phénomène qui me paraît un peu nouveau. Mais je ne sais pas, M. Charles a
oui,
peut-être des exemples.
Mais ça a à voir avec cet antiracisme dont je parlais. Parce que si on pétitionne pour demander la démission, l'éviction d'un certain nombre de gens, c'est parce qu'ils sont accusés de racisme. Or, le racisme, comme Sartre d'ailleurs le dit dans la réflexion sur la question juive, n'est pas une opinion. Le racisme est un délit. Et Sylvain Guggenheim a été accusé d'islamophobie. Il y a eu un livre paru sous la direction notamment d'Alain de Libera, les Grecs, les Arabes, et nous, enquête sur l'islamophobie savante. Donc, c'est ce fait-là, c'est cette espèce de radicalisation de l'antiracisme qui peut mener les intellectuels, non pas à pétitionner pour des innocents, mais au contraire, à vouloir harceler des gens qu'ils considèrent comme coupables. Christophe Charles.
Alors, je ne me prononcerai pas sur ces affaires récentes, simplement je voudrais vous rappeler que malheureusement, ça n'est pas nouveau, dans la mesure où, si vous vous souvenez de ce qui s'est passé à la Libération, il y a eu quand même des interdictions violentes, et ça a été jusqu'à la peine de mort. Donc, c'est pas du tout pour justifier le
mais
fait
qu'on ait... C'était quand même, à ce moment-là, c'était quand même des gens qui avaient collaboré.
Oui, mais il y a eu aussi des gens, ça a parfois débordé assez largement.
Oui.
Parfois, il y a eu des règlements de compte qui ont débordé le fait des gens vraiment tous coupables, il y a aussi parfois des élargissements. J'ai un de mes élèves actuellement qui travaille sur les épurations à l'université après 45 et il me racontait qu'un officier de la Rockefeller Foundation allait voir les gens pour savoir un peu qui ils étaient, parce qu'il ne voulait pas donner de l'argent à des gens qui avaient eu des comportements délictueux pendant l'occupation, et il s'apercevait que tous les collègues qui consultaient lui disaient « Ah, c'est un tel, c'est un collabo », et l'inverse est évidemment dit par le collègue en question. Donc chacun s'envoyait des noms de ce type. Bon, ça n'allait pas jusqu'au à ce qui s'est passé au moment de l'épuration. Mais enfin, il y avait un climat extrêmement tendu de gens qui avaient encore des comptes à régler bien après la Libération. Donc, c'est pas du tout pour relativiser ce qui se passe aujourd'hui, mais c'est pour dire que malheureusement, il y a eu d'autres épisodes dans la vie intellectuelle française où ce genre de règlement de compte sort sur la table. Je rappellerai aussi un autre épisode, bon, qui a été oublié aujourd'hui, mais il se trouve que moi, j'étais à l'époque à l'Université Lyon 3, Jean Moulin, qui était un des hauts lieux de propos négationnistes assez douteux, et il y a eu toute une série de scandales internes à l'université, parce qu'il y a même eu une commission qui a été nommée, qui était présidée par Henri Rousseau, pour essayer un peu de tirer au clair les activités de certains groupes qui effectivement utilisaient leurs activités universitaires pour cacher des choses beaucoup moins avouables, et ça a donné lieu à une enquête diligentée par le rectorat. Donc, c'est pas du tout pour relativiser ou amoindrir ce que vous dites par rapport à ce qui s'est passé là dans ces événements récents, mais malheureusement, c'est des phénomènes.
Oui,
les intellectuels ne s'aiment pas entre eux.
Les intellectuels ne s'aiment pas entre eux.
Voilà, c'est simplement une chose que je voulais dire, et qui n'est malheureusement pas à leur honneur.
Le négationnisme, c'est une chose. Les travaux
non, mais je suis d'accord, c'est pas du même ordre, mais
il y a tout à fait autre chose.
Je suis d'accord, mais oui, je veux dire, il y a quand même eu un certain nombre d'épisodes où on a appelé à des dénonciations.
Mais en même temps, je voudrais quand même relever dans le livre que vous dirigez, La vie intellectuelle en France, Christophe Charles, quelques symptômes du mal que dénonce André Perrin.
Oui.
Et je vais lire deux extraits de l'article de Ludovine Bantini sur les idées politiques. Elle parle du Débat, une revue lancée par Pierre Nora et Marcel Gauchet, au nom d'un réformisme centriste dont les cibles favorites sont tout à la fois Foucault, Bourdieu et Derrida, et ses principaux piliers, parmi lesquels Marcel Gauchet et Paul Yonnet, défendraient de plus en plus une ligne nationale républicaine fustigeant le multiculturalisme et valorisant un nouvel ordre moral. Alors, il y a des choses à dire pour et contre le débat, mais un nouvel ordre moral dont Gauchet serait le porte-drapeau, là, j'ai du mal à comprendre. Et un peu plus loin, elle parle de François Furet, et elle cite Mona Ouzouf, qui dit « Nous n'avons plus beaucoup d'entrain pour célébrer la Révolution française comme un acquis, et nous en avons encore bien moins envie de la célébrer comme une promesse. » Les masses populaires, commente Ludovic Montvigny, les foules révolutionnaires sont vues comme irrationnelles et dangereuses. Bien des historiens reprochent à Furet de ne pas travailler avec des sources de première main, mais de se fonder sur l'histoire des interprétations de la Révolution. Et la phrase suivante est très intéressante. Ce registre d'écriture, en fait, un historien journaliste qui, par là, dispose de réseaux médiatiques suffisamment puissants pour se faire peu à peu le roi du bicentenaire. Et ce mot d'historien journaliste m'a alerté, parce que l'une des méthodes de disqualification, qui est assez ancienne, et dont Sartre a usé notamment vis-à-vis de Camus, c'est de dénoncer à la voix la malignité d'une position, on choisit le camp des oppresseurs, et l'incompétence de celui qui agit ainsi. Sartre disant de Camus, nous aurons ceci de commun que avec Hegel, que vous ne nous avez lu ni l'un ni l'autre. Et en 1966, soit plusieurs années après la mort de Camus, auquel il avait justement consacré un très bel article, lorsqu'il a appris son décès, Sartre récidive, et il dit ce qu'il appelle à la trêve dans les guerres coloniales, refuse en fait de choisir son camp au nom des valeurs universelles, mais ils ne savent pas que l'universel est à faire, et ce sont, dit-il, de faux intellectuels. Le mot de faux intellectuel m'a fait sursauter. Et là, avec Furet, historien journaliste, on se retrouve dans le même cas de figure. Il est du mauvais côté, et il est quand même aussi disqualifié dans sa qualité même d'historien. Donc, ça témoigne quand même, justement, de ce durcissement du climat intellectuel. Comment discuter dans ces conditions, Christophe Charles?
Alors, bon, je vais pas vous étaler toutes les injures que les intellectuels se sont envoyées depuis Voltaire, parce que ça ferait une émission un peu longue. Mais je crois que malheureusement, oui, c'est une des tendances de tous les débats intellectuels, c'est qu'on assigne aux gens une qualité, ou au contraire, une absence de qualité, et ça devient un argument qui évite évidemment d'aller au fond des choses. Mais malheureusement, là encore, je répète, c'est quelque chose qui n'est pas spécifique vraiment ni de l'époque dont vous parliez, de Sartre-Camus, ni de l'époque Furet-Bicentenaire, ni de l'affaire Dreyfus. Alors l'affaire Dreyfus, si vous sortez toutes les injures qui ont été échangées, et ça allait beaucoup plus loin, puisqu'on se convoquait sur le pré, on échangeait des coups d'épée, et parfois c'était des coups d'épée qui faisaient vraiment du mal physiquement. Et donc je crois qu'il y a une spécificité peut-être de longue durée, alors avec des hauts et des bas, je pense qu'il y a des phases plus ou moins accentuées, on est peut-être dans une phase d'ascension vers la violence, ou en tout cas vers une violence moins maîtrisée, mais je crois que c'est assez un phénomène de longue durée de la vie française, et qui est lié, je crois, à la fois à la passion des idées, c'est Sudhir Hazare Singh, un historien britannique qui a qualifié les Français de passionnés par les idées, et quand on se passionne, évidemment, parfois on devient un peu violent, on sort de soi, et aussi de l'extrême concentration de ce monde intellectuel qui se trouve quand même rassemblé très très majoritairement, enfin ça c'est un phénomène aussi de très longue durée, autour de Paris et à Paris, et qui fait que les gens se connaissent, ils savent des choses les uns sur les autres, hein. Il y a toute une série, vous savez, de méchancetés qu'on échange dans les dîners en ville ou ailleurs, et qui servent souvent d'arguments un petit peu pervers pour disqualifier les gens. C'est très bien que Camus et Sartre étaient les meilleurs amis du monde pendant quelques années. Après, ils sont devenus les pires ennemis. Et évidemment, ils savaient chacun sur l'autre des choses. Et c'était utilisé parfois dans les polémiques ultérieures. Donc ça, je crois que c'est aussi une des caractéristiques qui polluent, enfin, qui sont des choses négatives du débat français, ce mélange des genres entre le personnel, les affects personnels, les connaissances personnelles, et des débats qui devraient rester au niveau des arguments plus maîtrisés. Oui, mais... Donc ça, je crois que si on compare à d'autres pays, c'est quand même un phénomène très spécifique de la France.
Et en même temps, cette dispute Sartre-Camus est très révélatrice. Elle témoigne d'un siècle, le 20e, qui a été un peu le grand bûcher des amitiés.
Oui.
Parce que la politique a été pensée sur le modèle de la guerre, du combat.
Oui.
D'où d'ailleurs la définition sartrienne de l'engagement. Et un combat qui plus est, vous le disiez tout à l'heure André Perrin, entre le bien et le mal, entre les dominants et les dominés, entre les oppresseurs et les opprimés. Et à ce moment-là, l'amitié se déplace à la fraternité d'armes. Éluard, ô vous qui êtes mes frères, parce que j'ai des ennemis. Or, on avait le sentiment, avec l'antitotalitarisme, qu'on en était sorti de ce modèle. Et que tout d'un coup, à nouveau, on pouvait parler puisque on rentrait dans l'espace de la délibération et non pas de l'affrontement. Le paradigme de la guerre s'éloignait. Et j'ai le sentiment, avec une grande tristesse, qu'il revient aujourd'hui, qu'il revient avec d'autant plus de force qu'on est désarçonné par ce qui nous arrive, par, je le répète, un type de conflictualité culturelle auquel rien ne nous préparait.
Oui. André Perrin. Alors c'est le deuxième point que j'évoquais tout à l'heure. Je parlais d'une perversion du débat intellectuel en fonction d'une double intrusion, celle de la morale et celle de la politique. Et en particulier lorsque, comme vous venez de le rappeler, la politique est pensée sur le modèle de la guerre. Car à partir de ce moment-là, l'interlocuteur, hein, parce que normalement, dans un débat intellectuel, on a des interlocuteurs, l'interlocuteur est transformé non seulement en adversaire que l'on va combattre, mais même en ennemi qu'il faut abattre. Or, c'est cela, me semble-t-il, qui se passe. Le débat intellectuel, par principe, est autre chose que le débat politique, parce que le débat politique est indissociable du combat politique, dont il est l'expression et la forme la plus naturelle dans une démocratie. Or, cette intrusion débat politique, elle témoigne de ce que, si vous voulez, un certain nombre d'intellectuels, aujourd'hui, assume tout à fait ouvertement cette double casquette de savant et de militant. Si vous voulez que je vous en donne un ou deux exemples, vous avez pensé au Moyen-Âge d'Alain de Libera. Bon, Alain de Libera, dans Pensée au Moyen-Âge, revendique un va-et-vient entre le passé et le présent qui l'autorise à, dans ce livre d'histoire et de philosophie médiévale, de s'en prendre à Le Pen, très bien, et puis de dénoncer la loi de 2004 sur les signes religieux à l'école, qui est une loi de racisme vestimentaire. Et cela du haut de son autorité de médiéviste. Bon. Alors, vous avez également Bourdieu, lui-même d'ailleurs, a témoigné, hein, c'est dans, je crois, dans Contrefeu, hein, de son évolution. Hein, il explique que la logique de son travail l'a conduit à renoncer à une certaine idée de l'objectivité dans laquelle il a fini par percevoir une forme de censure et qui l'a conduit à assumer le fait que la sociologie a une dimension essentiellement politique. Bon, hein, ce qui sera interprété plus tard, vous le savez comment, hein, c'est un sport de combat. Hein, et ses disciples vont aller dans cette voie. Hein, Patrick Champagne, par exemple, dans un article de Libération, dit « Nous sommes dans le même état d'esprit que Charlie Hebdo, refuser le consensus, jouer les emmerdeurs, et avec cela, nous continuons à être tout à fait scientifiques. » Donc on a une nouvelle figure, si vous voulez, celle du scientifique emmerdeur, qui est tout de même un peu inattendu. Alors voilà, c'est cela, si vous voulez. Alors vous avez bien sûr quelqu'un alors qui va encore plus loin dans ce sens. C'est un jeune sociologue très en vogue aujourd'hui, Geoffroy de Laganerie, qui nous dit ceci. Il s'en prend à certains de ses collègues en disant c'est malheureux, il y a des sociologues qui font un usage dépolitisant de la sociologie, qui renonce à sa dimension essentielle de critique sociale. Hein. Et par exemple, dans un texte où il revient sur la fameuse querelle, vous savez, expliquer, excuser, etc., il déplore que certains de ses collègues aient pu dire que non, non, expliquer, ce n'est pas du tout excuser. Il dit, mais bien sûr que si, expliquer, c'est excuser, et excuser, c'est un beau programme de gauche. Hein, et c'est un programme de gauche qui doit être assumé par
oui,
le sociologue.
C'est une querelle qu'on avait faite à Manuel Valls, qu'il a
oui,
dit
voilà.
Devant le magasin hypercachère, je crois, voilà. Justement, voilà. Assez d'explications, expliquer, c'est excuser. Voilà. Nombre de sociologues avaient protesté, et Geoffroy de la Ganaré a dit, je pense qu'il faut récupérer le mot d'excuse, on cède trop facilement aux offensives de la pensée réactionnaire ou conservatrice, excuser, c'est un beau programme de gauche.
Voilà.
Mais vous citez aussi, et ça c'est quand même, ça témoigne, Christophe Charles, de la réalité étrange quand même de notre vie intellectuelle, l'appel lancé par Geoffroy de la Ganerie et Édouard Louis. Pourquoi nous appelons à boycotter les rendez-vous de l'histoire de Blois? Pourquoi? Parce qu'à ces rendez-vous de l'histoire, Marcel Gauchet devait prononcer la conférence inaugurale. Elle portait sur la révolte. Et ils justifiaient leur refus du débat en ces termes. Ce serait comme si nous nous inscrivions dans le même monde que ce militant de la réaction, pardon. Et ils expliquaient, en France, intellectuels de droite restent un oxymore, mieux une impossibilité, et ils affirmaient vouloir fuir les débats imposés, refuser de constituer certains idéologues comme des interlocuteurs, certains thèmes comme discutables, certains problèmes comme pertinents. Ça, c'est quand même... Alors, il y a des précédents, Christophe Charles, bien sûr.
Oui,
mais qu'est-ce que ça dit de notre présent ?
Non, je crois qu'il ne faut pas non plus surestimer ces épisodes, dans la mesure où c'est des gens qui sont sur des positions très radicales, c'est clair, qui sont souvent appartenant à la nouvelle génération qui s'impatiente un peu, parce que c'est vrai que la vieille génération, et j'en fais partie, s'est installée depuis un peu trop longtemps, et ils souhaiteraient avoir voix au chapitre. Donc, si vous reprenez les insultes que les surréalistes adressaient à Maurice Barrès, c'était bien plus violent encore que ça, puisqu'on voulait on le traitait de cadavre, c'était quand même encore pire, et on le dénonçait parce qu'il avait contribué à envoyer au front et à faire tuer des centaines de milliers de jeunes soldats. Donc je ne veux pas du tout relativiser la violence actuelle, mais il faut aussi se rappeler de ces moments flamboyants de certaines avant-gardes qui étaient extrêmement violentes contre des gens bien installés dans la vie intellectuelle. Je crois que ça fait aussi partie de ce jeu spécifique de la France. Moi, ce qui m'importe plutôt, c'est ce débat, effectivement, est-ce que la science doit être ou pas engagée? Alors, évidemment, il y a toutes sortes de positions là-dessus. Vous avez cité les positions de Bourdieu à la fin de sa vie, mais il faut quand même aussi reconnaître que pendant une longue période, il avait été au contraire très agacé par ceux qui utilisaient beaucoup trop, que ce soit le marxisme, ou que ce soit l'économie, ou que ce soit d'autres sciences, pour se tailler une position intellectuelle et politique particulière. Je pense qu'il pensait quand même à des gens comme Raymond Aron, qui avait quand même à la fois été un très grand sociologue et un très grand philosophe, mais qui aussi avait été très engagé pendant toute une partie de sa vie et qui avait écrit tout au long de sa vie dans des journaux clairement orientés dans une certaine direction. Donc il était parti de là où il avait été très en retrait par rapport à ça. Et à la fin, un peu la logique de sa renommée, la logique de sa position, l'avait amené à être obligé de se prononcer sur des choses que, quand il était jeune, il n'aurait pas fait. Et je crois que c'est plutôt lié au fait qu'il y avait un agacement chez lui, enfin en tout cas, j'ai parlé avec lui de ça, par rapport à cette domination de l'économie, qui est quand même une des caractéristiques de notre époque, le fait que les économistes, par essence, auraient leur mot à dire sur certaines choses, et eux, on considère que c'est pas de la politique quand ils prononcent un jugement sur telle ou telle politique ou sur telle ou telle mesure. Eux, on les interroge, on leur demande leur avis, et parce qu'ils sont économistes, ils auraient une sorte d'extraterritorialité. Et lui, il disait, pourquoi les autres sciences humaines auraient pas, elles aussi, cette fonction d'être consultées? Alors, évidemment, de façon contradictoire, on n'est pas obligé d'être que d'un seul côté, mais au moins qu'on reconnaisse que l'expert d'autres sciences humaines doit avoir la même autorité dans le débat public
oui,
que l'économiste.
Christophe
Donc,
Charles.
Il me semble que là, c'était aussi par rapport à la défense de sa discipline face aux autres sciences humaines, dont l'économie qui avait cette position à l'époque, oui. Et toujours aujourd'hui d'ailleurs, oui, on revient à la télévision, qu'on interroge toujours des économistes sur telle ou telle mesure, on n'y aurait pas l'idée forcément d'interroger un sociologue. Donc je crois qu'il y a des agacements internes aux sciences humaines qui peuvent expliquer certaines de ces positions.
Il me semble que les sociologues sont quand même assez présents.
Oui, mais si vous regardez, on a fait une statistique dans le livre, vous verrez, il y a le nombre de gens qui ont signé des textes dans les grands journaux par rapport aux grandes questions du jour, on voit bien qu'il y a une écrasante domination des économistes.
Oui, mais en même temps, Bourdieu ne s'en prenait pas simplement aux experts en économie. Il détestait ce qu'il appelait les essayistes, et Marielle Massé le cite d'ailleurs dans un article de votre livre. Il s'en prenait aux intrusions intempestives de la cohorte innombrable des essayistes, ces bousilleurs, comme on disait au XIXe siècle, des mauvais peintres qui perpétuent les ambitions démesurées de la cagne et vivent en parasites semi-plagiaires sur les travaux des autres. Et d'ailleurs, parmi ces cibles, il y avait dans la distinction Camus, que l'on pense seulement, disait-il, au Camus de l'homme révolté, ce bréviaire, de philosophie édifiante, sans autre unité que le vague à l'âme égotiste qui sied aux adolescences hippocagneuses et qui assure à tout coup une réputation de belle âme. D'ailleurs, il était aussi sévère avec le Malraux des voies du silence. Mais là encore, si vous voulez, il y a ce jugement scientifique doublé, en fait, d'une querelle politique, parce que L'homme révolté, c'est un livre extrêmement critique, on le sait, à l'égard de l'optique révolutionnaire, du communisme, etc. Donc, tout ça mêlé, et encore une fois, en effet, dans une très grande violence. André Perrin.
Vous avez évoqué Raymond Aron, son engagement politique, oui, mais enfin, il était quand même... Il y avait d'une part ce qu'il écrivait dans des journaux, il y avait son travail universitaire. Et par ailleurs, il n'y avait pas, me semble-t-il, cette logique de l'exclusion que l'on rencontre. Bon, vous parlez de Bourdieu. Bon, écoutez, je me souviens quand même que vous avez un film de Pierre Carle, hein, qui s'appelle, si je me souviens bien, Enfin pris, et dans lequel on voit Bourdieu qui explique pour quelles raisons il refuse de parler avec certains interlocuteurs. Alors, il est d'abord question, je crois, de Bernard-Henri Lévy, et puis ensuite, plus largement, d'autres. Hein, et il dit, vous comprenez, si j'acceptais, toute leur vie, ils le diraient, j'ai parlé avec Bourdieu. Alors, excusez-moi, mais je ne vois pas quand même que Raymond Aron ait prononcé ce genre de phrase ou d'exclusion.
C'est à vérifier. Alors, je suis historien, je ne crois qu'aux sources.
Hein. Je fais confiance pour trouver des sources.
Je pense qu'il y avait du mépris aussi chez Raymond Aron par rapport à certaines personnes.
Alors, toujours est-il, si vous voulez, que je crois, pour en venir à cette querelle du savant et du politique. Bon, c'est vrai que vous avez donc un certain nombre de sociologues aujourd'hui qui revendiquent ouvertement cette quasi-identité de la science et de la politique. Alors ça suppose que, on se débarrasse de la fameuse ou supposée neutralité axiologique de Max Weber. Alors, pour cela, bien, on nous explique que Wertfreiheit a été mal traduit, qu'il ne faut pas comprendre neutralité axiologique, parce que neutralité axiologique, ça a été une sorte de machine de guerre de Julien Freund et de Raymond Aron pour combattre le marxisme dans les sciences sociales, et qu'il faut traduire par non-imposition des valeurs, en comprenant par là, en voulant faire comprendre par là, que le propos de Max Weber réduit à être une simple déontologie du métier de professeur. Hein, voulant dire ceci, le sociologue peut très bien être militant, engagé politiquement, etc. Le tout, c'est que, du haut de sa chair, il n'en profite pas pour imposer ses points de vue politiques à ses auditeurs. Bon, alors, admettons-le, je ne vais pas discuter ici la question de savoir, on n'a pas le temps, si le propos de Weber se réduit à cela.
Il faut rappeler que Weber a été lui-même très engagé en politique.
Oui, précisément. Non, et bien sûr, et je connais les arguments, il y a l'argument de l'anarchiste qui pourra faire un très bon professeur de droit parce qu'il verra ce que les autres ne verront pas. Fort bien. Admettons que cela se réduise donc à une déontologie du métier de professeur, mais regardons comment Max Weber justifie la chose. Il dit, c'est parce que dans l'espace de sa salle de cours, le professeur dispose d'un privilège qui est celui du silence institutionnel et respectueux auquel il a droit. Il n'est pas là pour être contredit. Donc, c'est dans l'espace public, dans les journaux dans lesquels il écrit, comme Raymond Aron, dans des réunions publiques où il va parler, que là, il peut légitimement exprimer ses vues politiques, parce parce que là, il s'expose à la contradiction. Bien. Est-ce que nos intellectuels aujourd'hui s'exposent véritablement à la contradiction ?
À partir du moment où vous mêlez science et politique, vous ne vous exposez pas à la contradiction et surtout, vous niez la faillibilité. C'est-à-dire que si on veut délibérer en politique, c'est qu'on estime que nous sommes tous faillibles et que la seule manière qu'une certaine vérité puisse advenir, c'est à travers la confrontation des opinions. Mais si votre politique est fondée sur une science, il n'y a plus de faillibilité et à ce moment-là, plus de délibération possible. Et Christophe Charles, j'ai lu l'index, enfin j'ai lu tout ce que j'ai pu de votre livre, j'ai regardé l'index, et il y a un auteur qui n'y figure pas, ce que je trouve tout à fait normal, et ce que je regrette en même temps, parce que c'est un auteur, disons, très peu connu, mais c'est Paul-Louis Landsberg, si vous voulez, c'était un intellectuel de la Revue Esprit dans les années 30, et il a édifié une théorie de l'engagement qui n'a malheureusement pas le retentissement de celle de Sartre. Il disait, je l'ai déjà cité dans cette émission, que l'engagement, c'est une décision pour une cause imparfaite. Et il dit, c'est une, par une telle imperfection, conscience de l'imperfection que la fidélité à une cause se trouvera préservée de tout fanatisme, c'est-à-dire de toute conviction de vivre en possession d'une vérité absolue et intégrale. Et on peut regretter que cette définition de l'engagement n'ait pas eu, si vous voulez, de véritable postérité. Décision pour une cause imparfaite, c'est vraiment conscience de notre finitude, et si cette conscience-là disparaît, alors en effet, le débat intellectuel n'a plus aucun fondement. Et c'est le risque, si vous voulez, dans lequel nous sommes toujours plongés, que cet oubli perpétuel de la finitude par des intellectuels qui considèrent qu'ils ont une expertise supérieure.
Alors moi, je pense qu'effectivement, il y a toujours cette tendance de l'intellectuel à outrepasser ses limites. Ça fait même partie presque du jeu, quand on est un intellectuel, de se sentir, comme on est dans le royaume des idées, on peut penser qu'il n'y a pas de réalité qui vous empêche. Mais malheureusement, la vie intellectuelle est une réalité très très matérielle, et c'est ce qu'on essaye de montrer dans le livre, c'est-à-dire qu'il y a des contraintes. Il y a à la fois, où est-ce qu'on va pouvoir parler ? Donc, vous parlez de la salle de cours, mais ça c'est une vision de la salle de cours tout à fait idéaliste, peut-être qui était valide dans une université allemande de 1900, mais aujourd'hui il faut déjà se faire entendre dans une salle de cours. C'est pas toujours si simple avec des publics qui sont pas tous aussi attentifs qu'ils pouvaient l'être en Prusse à l'époque. Il y a d'autre part le fait que nous avons des collègues, ça, comme disait l'autre, la pire invention de l'université, c'est les collègues, c'est-à-dire qu'il faut aussi que nous trouvions notre place dans un curriculum, que nous ayons la capacité de défendre nos idées. Il y a évidemment dans d'autres salles de cours des gens qui diront des choses différentes, et les étudiants qui entendent ces deux sons de cloche vont évidemment rapprocher les contradictions, ou parfois vous poser des questions à la fin en vous disant comment ça se fait que monsieur Intel lui dit le contraire de vous. Donc on est quand même, malgré tout, en dépit de cette soi-disant supériorité du professeur dans sa chaire, qui est quand même une vision très idéale, toujours confronté de près ou de loin par l'écho ou l'écho qu'on n'a pas, par les contradictions avec des collègues, par évidemment les effets externes, puisqu'il y a maintenant des parents d'élèves qui peuvent se plaindre quand un professeur outrepasse ses droits. Donc je crois qu'il ne faut pas non plus dramatiser. Nous avons un certain nombre de garde-fous et ces garde-fous fonctionnent encore.
Est-ce que les parents d'élèves sont des garde-fous ?
Ce serait l'objet. Parfois, ce sont des ennuyeurs. Mais
voilà. Ce serait l'objet d'un autre débat. En tout cas, merci beaucoup, André Perrin. Je rappelle le titre de votre livre, Scène de la vie intellectuelle en France, l'intimidation contre les débats. Il est publié chez l'Artilleur. La vie intellectuelle en France, en deux volumes. C'est un livre que vous avez dirigé, Christophe Charles, avec Laurent Jean-Pierre, et qui est publié aux éditions du Seuil. La semaine prochaine, l'émission aura pour titre « Les catholiques dans la cité ». Mes invités seront Laurent Dandrieux et Erwan Lemorédec. C'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut, avec la collaboration d'Anne-Catherine Nochard et Didier Lagarde. À la technique aujourd'hui, Alain Joubert. Dans un instant, Concordance des temps de Jean-Noël Jeannonet.